BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. Il y a des semaines où au moment de choisir ce dont on va vous parler, tout est clair, c'est ce sujet et pas un autre. Et puis, il y a les autres semaines. On hésite, on pèse le pour et le contre de tel ou tel sujet et souvent, on arrive à une conclusion claire. Mais pas cette semaine, car on n'a simplement pas pu se décider. On revient donc sur plusieurs sujets d'actu allemande dans quelques secondes. Et puis le grand reportage de la semaine, lui, ne change pas, bien présent, et toujours en seconde partie, direction l'Espagne dans quelques minutes, où le taux de natalité n'a jamais été aussi bas.
Ma compagne ne veut pas non plus avoir d'enfants, pareil pour mes amis, ils ont des chiens.
Reportage complet, dans 5 minutes, vous écoutez Vue d'Allemagne, Los Gates, c'est parti. C'était vendredi dernier, Joe Biden, président américain, très applaudi en Allemagne. Celui qui quittera le pouvoir après les élections du 5 novembre a reçu des mains du président allemand Frank-Walter Steinmeier la plus haute distinction du pays. La Grande Croix, classe exceptionnelle, médaille de l'Ordre du Mérite de la République fédérale, la plus haute classe donc. Joe Biden effectuait en Allemagne une visite d'adieu. Et le président allemand l'a remercié pour ses services à l'Alliance transatlantique notamment. Il a insisté, l'amitié entre les États-Unis et l'Allemagne reste, ce sont ses mots, existentiels tant pour la sécurité allemande que pour la démocratie. Fin de citation. Des honneurs auxquels a répondu Joe Biden, rendant à son tour hommage à la République fédérale.
L'Allemagne nous a montré à tous que le changement est possible. Pour le meilleur ou pour le pire, les pays peuvent choisir et choisissent leur propre destin. Les choix que font les dirigeants dans les moments critiques sont vraiment importants. Je tiens à remercier les dirigeants allemands pour le choix qu'ils ont fait au moment le plus important.
Référence à l'histoire allemande d'après-guerre, cette visite a aussi été l'occasion d'évoquer le dossier de la guerre en Ukraine. Joe Biden et ses homologues allemands, français et anglais ont déclaré vouloir continuer de soutenir l'Ukraine dans une paix juste et durable fondée sur le droit international. C'est ce qu'ils ont dit après une réunion pour laquelle était venu donc le président français et les dirigeants anglais à Berlin, exprès à cette occasion. Donc.
DW.
Anne Le Touzé vous parlait il y a quelques semaines en septembre à ce micro des résultats des élections dans les Länder de Saxe, de Thuringe et puis du Brandenbourg. Élections où l'extrême droite a à chaque fois réalisé de très bons scores, devenant premier parti en Thuringe et arrivant en seconde position en Saxe et dans le Brandenbourg. Depuis, les négociations pour former des coalitions vont en train. C'est ainsi que ça se passe en Allemagne, hein. Vous le savez peut-être, pour obtenir une majorité, les partis forment des coalitions, comme c'est le cas aussi au niveau fédéral, le niveau national en Allemagne. En Saxe, des Sondierungsgespräche viennent de débuter, des rencontres pour sonder, en français on dirait. C'est en gros le niveau 2 des négociations. Après les rencontres informelles, ce serait là le niveau 1. Et si les partis arrivent à trouver des points d'entente, ils mèneront alors des Koalitionsverhandlungen, des négociations de coalition, ça serait le niveau 3. C'est là qu'on se met d'accord sur un programme commun. Chacun tente alors d'imposer aux autres les points de son programme qu'il juge le plus important. On met tout ça sur papier et on signe un accord. En Saxe, on est donc au niveau 2 des négociations entre les conservateurs de la CDU, les sociodémocrates du SPD et le tout nouveau parti BSW, l'alliance Zara Wagenknecht, un parti populiste qui défend des positions de gauche au plan économique et de droite, voire d'extrême droite, sur l'immigration. En Thuringe, on est déjà au niveau 3, là, aux négociations de coalition entre les mêmes partis. C'est là donc que c'est le plus avancé. Dans le Brandenbourg, les sociodémocrates et le parti BSW ne sont là qu'au niveau 2 des discussions. On est donc encore loin d'un gouvernement. Et il y a un sujet qui bloque partout, c'est la revendication du parti de Sara Wagenknecht d'ancrer dans un éventuel programme commun l'engagement en faveur de ce qu'elle appelle une politique de paix. Plus concrètement, une politique plutôt pro-russe, voulant conditionner les livraisons d'armes à l'Ukraine en échange de négociations avec Moscou. Les lenders n'ont aucune compétence en matière de politique étrangère, c'est important à rappeler. Mais Sarah Wagenknecht tient à affirmer ses positions avant les élections fédérales qui auront lieu dans toute l'Allemagne l'an prochain. Et cela complique donc les négociations. Mais les partis n'ont pas le choix, ils ont tous exclu de former des coalitions avec l'AfD dans les trois Bundesländer.
DW. Hier kommt nun das Jugendwort 2024. Es lautet Aura. Aura beschreibt die persönliche Ausstrahlung.
Et le mot jeune de l'année 2024 est Aura. Vous l'avez entendu, Susanne Daubner est une des présentatrices les plus connues du journal télévisé de 20h en Allemagne, qui annonce tous les ans, à l'automne, le mot jeune de l'année en Allemagne, choisi par des jeunes de 11 à 20 ans. Un mot que souvent les plus vieux ne comprennent même pas. Alors Aura, vous comprendrez certainement, c'est un mot piqué à l'anglais, et c'est le même en français d'ailleurs, venu du latin. Il est utilisé par les jeunes pour désigner ce qu'une personne renvoie. C'est donc utilisé dans un contexte positif ou négatif. Elle a une aura de fou, tout le monde l'aime, on pourrait dire par exemple positivement. Ou alors négativement, il n'est pas sympa, directement moins 1000 d'aura. Voilà donc un mot d'allemand et jeune de plus dans votre vocabulaire.
DW.
Et puis, cette étude dont on voulait vous parler cette semaine, c'est menée en Allemagne pendant 6 mois. 41 entreprises ont testé la semaine de 4 jours. Conclusion, elle améliore significativement la santé mentale et physique des employés. Ils et elles dorment plus longtemps, sont moins stressés et font plus de sport. Plus difficile en revanche de tirer des conclusions sur les effets sur la productivité, disent les auteurs de l'étude. Mais près de 40% des entreprises qui ont testé veulent désormais appliquer la semaine de 4 jours. Et un autre tiers veut poursuivre l'expérimentation. Voilà qui va réjouir les syndicats allemands qui sont nombreux à demander la mesure. En début d'année, la semaine de 4 jours était par exemple une des principales revendications du syndicat des conducteurs de train.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, seconde partie, grand reportage et on part donc en Espagne où il n'y a jamais eu aussi peu de naissances. Le taux de fécondité est au plus bas depuis que le pays réalise des statistiques en 1941, 1,19 enfants par femme en moyenne. Alors pourquoi ? Que se passe-t-il dans le pays ? Réponse dans ce reportage d'Henri Delaguéry, notre correspondant à Barcelone.
Il est 9h du matin et les grilles de l'école vont bientôt ouvrir. La Villa Olímpica, c'est une école publique de Barcelone, près de la mer, qui accueille des enfants de 3 à 11 ans. Elle a toujours eu très bonne réputation, mais chaque année, il y a moins d'enfants. La directrice Yolanda Abad a fait ses calculs.
Au cours de l'année scolaire 2013-2014, en maternelle, nous avions 159 élèves. Maintenant, nous en avons 130, c'est-à-dire qu'on a 29 enfants en moins dans l'école. C'est très visible. Malheureusement, la natalité est en chute libre et on s'en rend compte à l'école. Avant, au moment des inscriptions, nous avions toujours des enfants en liste d'attente. À un moment donné, jusqu'à 15 familles n'avaient pas pu avoir de place. Depuis, ce chiffre a diminué et maintenant, on n'a plus jamais d'enfants sur la liste d'attente.
Et cette école est passée de 3 à 2 classes par niveau. Avec 1,12 enfants par femme, l'Espagne est le pays qui fait le moins de bébés en Europe, juste derrière Malte. En 10 ans, la natalité a baissé de 24%. Il y a aujourd'hui moitié moins d'enfants que dans les années 60. La raison est avant tout économique. Le coût de la vie est de plus en plus élevé. Les prix de l'immobilier se sont envolés. Pour Bruno, 33 ans, pas question d'avoir un enfant.
Non, vraiment pas. Ma compagne ne veut pas non plus avoir d'enfants. Pareil pour mes amis. Ils ont des chiens. Avoir des enfants quand tu vis en location, ce n'est pas viable.
Et puis, il n'y a pas vraiment de politique familiale ici. Le congé paternité a certes été allongé, mais les familles ne reçoivent pas d'aide, comme en France par exemple. Avoir des enfants ne change pas grand-chose à sa feuille d'impôt. La cantine, les centres aérés ou les activités extrascolaires ne sont pas subventionnées, regrettent Lydia et Nouria, deux mères de famille.
Ça coûte très cher d'avoir des enfants ici. Il n'y a presque aucune aide. Il n'y a pratiquement rien. 4 mois de congé et merci. Ensuite aussi, les activités sont très chères. Et puis souvent, on n'a pas le noyau familial dans une grande ville comme cela peut être le cas dans un village où tout est plus facile.
On investit très peu ici pour les enfants et pour les familles. C'est probablement pour ça qu'il y a de moins en moins d'enfants.
Mais les questions d'argent n'expliquent pas tout. Pour les jeunes Espagnols comme Isabelle, 28 ans, un enfant est parfois vu comme une responsabilité trop importante qui prive de liberté.
La maternité prend un temps fou. Je suis vraiment très jeune et j'ai plein d'autres choses à faire avant de m'occuper d'un bébé. Et puis en fait, je n'aime pas vraiment les enfants. Je ne me vois pas m'occuper d'un bébé.
Et si Barcelone se vide de ses enfants, elle se remplit d'animaux. En Espagne, on recense 9,3 millions de chiens pour 6,6 millions d'enfants de moins de 14 ans. Alors il n'y a pas de relation directe entre les deux phénomènes, mais cette statistique provoque depuis quelques mois un débat de société dans le pays. Bruno, qui ne veut pas d'enfants, est propriétaire d'un bulldog anglais.
Un chien ne demande pas autant qu'un enfant. Il faut juste lui donner de l'amour et de l'affection et c'est tout. Tu n'as pas à le guider dans la vie, à l'aider à grandir ou à se préoccuper de ses études, etc. Il y a de plus en plus de chiens ici. J'aime beaucoup. Tu vois souvent passer des gens avec 4 ou 5 chiens. Barcelone est devenue une ville pet friendly, aimable avec les chiens.
Et c'est toute une ville qui est en train de changer avec l'ouverture de parcs à chiens, de boutiques spécialisées ou de garderies canines, quand dans le même temps, des écoles ferment. Une évolution que regrette la directrice de la Villa Olympica.
Une ville sans enfants, c'est une ville morte. Vous imaginez une ville sans leurs sourires, les rires des enfants, sans leurs cris. Ils mettent de la vie dans la rue et dans les parcs. Si on ne favorise pas la natalité, je ne sais pas quel sera notre futur.
La chute de la natalité est un défi pour l'Espagne. Cela va poser un problème pour les retraites et pour l'économie du pays qui va manquer de main-d'œuvre. C'est aussi pour cela que Pedro Sanchez, le Premier ministre, soutient que l'immigration est nécessaire pour faire face à la crise démographique que traversent l'Espagne et l'Europe. Henri de Laguerry, à Barcelone pour la Deutsche Welle.
Le reportage international à retrouver et à partager sur la page de Vue d'Allemagne sur le site internet de la DW et son application et aussi les applications de podcast. Pour cette semaine, l'émission se termine. On se retrouve pour le prochain numéro la semaine prochaine. Et d'ici là, alles Gute avec une Aura à plus 1000 comme disent les jeunes. Prenez soin de vous. Tchuss!